Je n'ai jamais été très douée en mathématiques, dit Dieu. Mais des quatre opérations, celle que j'aime le mieux, c'est la multiplication. L'addition, c'est bien, mais ça ne va pas assez vite. C'est fastidieux, tous ces comptes de trésorier. Et moi, j'aime sans compter. La soustraction, ce n'est pas mon genre. Quand il faut ôter, enlever, retrancher, j'ai mal partout. Moins de travail, moins de services, moins de pasteurs, moins de musiciens. Beaucoup de petites opérations et de grosses retenues, alors que la mission reste exaltante. Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages. Voilà des siècles que j'essaie d'apprendre aux hommes à ne plus faire de division. Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, incorrigibles. L'un aime célébrer avec l'orgue, l'autre son de la batterie et de la guitare électrique, et alors ils décident de ne plus célébrer ensemble. Ici, on prie les mains levées, là, en silence, et alors on se sépare. Mais la multiplication, c'est ma spécialité. Je ne suis moi-même que dans la multiplication, je ne me sens bien que dans la multiplication. Je suis le multiplicateur, je multiplie tout, la vie, la joie, le pardon. Frères et sœurs, Dieu aime multiplier. Et ici, au travers de l'action de Jésus dans ce texte de l'Évangile bien connu, il multiplie les pains et les poissons. Cette appellation du texte, le miracle de la multiplication des pains, est pertinente, mais comme souvent, elle en cache toute la saveur. Dans un sens premier, nous pourrions lire ce texte un peu comme un problème de mathématiques. Sachant que Jésus monte sur une montagne et qu'une foule immense de 5000 hommes se réunit à ses pieds, un petit a. Sachant qu'un homme avait en moyenne avec lui une femme et deux enfants, combien y avait-il de bouches à nourrir? Un petit b. Déduisez-en le nombre de pains et de poissons qu'il faudrait pour tout ce monde, sachant qu'une ration adulte est de deux pains et de deux poissons et une ration enfant d'un pain et d'un poisson. Un petit c, sachant que Jésus et les disciples n'ont que 5 pains d'orge et 2 petits poissons, est-ce suffisant? Donnez votre conclusion. Deuxième problème. André lui propose une solution alternative. Les disciples ont une cagnotte de 200 deniers. Sachant qu'un denier équivaut environ à 10 pains et 4 poissons, la somme suffira-t-elle à l'achat de denrées pour nourrir la foule? Donnez votre conclusion. Ce qui peut renforcer cet aspect ludique du problème de mathématiques, c'est la posture de Jésus avec une question rhétorique posée aux disciples. Où allons-nous acheter des pains pour que cette foule ait à manger? Et le texte prend bien soin de préciser que Jésus, lui, sait déjà à l'avance. Jésus disait cela pour les mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Ce qu'il fallait faire, pardon. Voyez la pédagogie de Jésus, comme souvent, comme presque toujours dans les évangiles, c'est qu'il repose une nouvelle question au lieu de donner une réponse. Enseigner par le questionnement, c'est d'ailleurs déjà ce que Socrate et les philosophes de l'Antiquité faisaient. C'est ce qu'on appelait la maïeutique, vous savez, faire accoucher les esprits. Et puis dans l'enseignement, ce qui est aussi éternel et universel, c'est que les élèves ne lisent pas bien l'énoncé. Où allons-nous acheter des pains? Demande Jésus. Et que répondent Philippe et André? Ils répondent par des considérations financières. Ils ne répondent pas au « où », mais ils répondent au « comment ». Effectivement, la première préoccupation était peut-être de se demander où se ravitailler plutôt qu'avec quels moyens. Car on peut être riche à millions, mais sur une montagne déserte, sans endroit pour trouver ce que l'on peut acheter pour vivre. Nous sommes ici invités dans cette question de Jésus et cette non-compréhension des disciples à ne pas partir trop vite dans l'action quand nous sommes interpellés par le Saint-Esprit. Ne pas forcément répondre au comment quand on nous demande où. Les disciples se retrouvent dans une situation impossible. Mais tout à leur bonne volonté et leur envie de servir Jésus et la foule, ils se mettent en route et cherchent des solutions. Nous imaginons volontiers leur angoisse, les suées qu'ils doivent avoir pour faire en sorte que tout se passe bien. Se sont-ils sentis débordés, fatigués, avec des envies de prendre une barque et de se retirer au loin ? Les disciples restent sûrement dans une logique trop comptable et mathématique. Mais qui les blâmerait ? Nous vivons, nous aussi, dans cette logique. Seulement voilà, c'est utile et indispensable de savoir compter. Mais dans ce texte, Jésus nous appelle vers un essentiel qui est ailleurs. Jésus guide les disciples vers leurs limites d'homme pour lever le voile de cet essentiel. Le problème mathématique posé tout à l'heure n'a pas de solution. La seule conclusion raisonnable possible pour nourrir toute cette foule est « il faudrait un miracle ». Et le miracle va avoir lieu. Nous pourrions appeler ce texte différemment. La multiplication des pains, le titre que donnent nos Bibles, ne révèle qu'une partie de l'action de Jésus. Nous pourrions plutôt choisir le dévoilement du royaume. Ce dévoilement se cache dans quelques détails du texte. Nous nous sommes intéressés au comment, au où, mais pas encore au quand. Avez-vous entendu ? À quel moment se passe ce miracle ? Vous en rappelez ? Alors, oui, et puis, plus précisément, on nous donne une indication sur une fête, la Pâque. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Voilà une indication source de promesse. Quelque chose est là, est proche, quelque chose va advenir. Et nous, nous savons ce qui va se passer à Pâques. Nous quittons le temps linéaire et humain pour entrer dans le temps de Dieu. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques dimanches, j'ai prêché sur ce fameux kairos en grec, le temps de Dieu. Quelque chose vient et la foule de la montagne va en goûter les prémices. Un autre détail, le texte nous parle d'un jeune garçon. Pourquoi dans ce texte, ce jeune garçon prend soudain une place centrale ? Était-il le seul de toute cette foule des 5000 hommes, mais comme je vous ai expliqué, il y avait aussi toutes les femmes et les enfants, le seul de ces milliers de personnes à avoir sur lui des provisions ? Sûrement pas. Il était peut-être le seul à oser le partage, à oser venir vers ce Christ pour lui proposer de mettre en commun ce qu'il avait. Celui qui ne vit pas comme un enfant ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Dimanche dernier, avec le baptême de Thiago, nous avons reparlé de cette parole. Ce jeune garçon, dans ce texte, est sûrement le seul à avoir profondément fait confiance à Jésus pour se dévoiler à lui, pour se mettre à nu. Qui oserait, devant des milliers de personnes, dire « Mais moi j'ai un petit peu, peut-être que... » Encore un détail, l'herbe On est proche de la fête de Pâques, c'est donc le printemps, et en effet, il doit y avoir plus d'herbe que d'habitude. Mais enfin, pourquoi est-ce utile de nous dire qu'il y avait de l'herbe et des gens qui s'assoient dessus, qui font une pause, qui prennent du temps pour s'assembler autour de Jésus, dans la montagne, à l'écart de l'agitation de la préparation de la fête de Pâques, de l'effervescence des villes et des villages. Cette herbe verte, ce berger entouré de son troupeau, voilà un écho au psaume, un psaume que vous connaissez bien, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne manquerai de rien. Comme la foule qui va être rassasiée, ma coupe déborde, comme les paniers de reste. La grâce est là tous les jours de ma vie. Et le lecteur de Jean ne peut pas ne pas faire ce rapprochement. D'ailleurs, un peu plus loin au chapitre 10, Jean reprendra encore ce parallèle et va le développer en disant cette parole de Jésus, « Je suis le bon berger. » Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Cette herbe verte, ces gens qui s'assoient autour de Jésus, cette surabondance, le royaume est déjà là. Et ici, ce matin, dans notre temple d'Annecy, ces chants, ces prières, cette communauté rassemblée, diverse, cette parole donnée, oui, le royaume est déjà là. Amen.